Bonjour à tous, bienvenue sur Graphite 94.9, vous écoutez La Voix Libre, une émission de l'association Picassoft. Alors pour rappel, Picassoft, association UTCN qui s'est donnée pour mission de sensibiliser et de former les citoyens aux enjeux du numérique et qui héberge des services web respectueux de la vie privée. Aujourd'hui, on va parler neutralité du net et une fois n'est pas coutume, on va commencer par un petit extrait.
Posséder une route n'autorise pas à choisir les voitures qu'il emprunte. Bonjour. Sur Internet, tous les paquets naissent libres et égaux en droit. Les paquets, ce sont les petites valises qui transportent les informations circulant sur le réseau des réseaux. Tel qu'il a été créé, le net n'est qu'un tuyau qui transporte tous ces paquets de façon neutre, quel que soit leur contenu. C'est ce que l'on appelle la neutralité du net.
Alors c'était un extrait d'une émission de la chaîne DataGueule. Qui s'appelle Neutralité, j'écris ton nom. Aujourd'hui, je suis avec Stéphane, Rémi et Romain de Picassoft. Bonjour à vous.
Coucou. Bonjour.
Salut.
On se partage un micro, donc ça va être un petit peu funky. Et on a le plaisir de recevoir directement en studio Hugo de l'association Rhizome. Salut Hugo.
Salut Quentin.
Et bien du coup, c'est parti pour te cuisiner. Donc pourquoi tu es en studio avec nous aujourd'hui? Et bien parce que tu fais partie d'une autre association de l'UTC qui se définit comme un FAI ou fournisseur d'accès à Internet associatif. Alors Hugo, qu'est-ce que c'est qu'un FAI et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est associatif?
Alors un FAI, comme tu l'as dit, c'est un fournisseur d'accès à Internet. C'est-à-dire qu'on propose des abonnements à Internet comme le fait Free ou Orange. On vous donne une box au final et vous pouvez accéder à Internet grâce à ça. Et vous avez une adresse IP publique qui vous permet, entre autres, d'héberger vos propres services à la maison, on y reviendra. Et associatif, ça signifie que la gestion de notre FAI, elle est ouverte et transparente. On a une association 1901, les abonnés sont également membres de l'association, ils ont une voix délibérative, ils peuvent voter aux assemblées générales de l'association, ils peuvent directement influer sur la vie de l'association.
Ok, nickel. Et bien ça, en général, c'est quand même des choses qui nous plaisent bien, mais du coup, vous êtes les seuls à faire ça en France? Est-ce qu'il y a d'autres gens? Donc nous, on a déjà entendu parler de la FFDN, donc l'hébergeur de Picassoft et Theta Neutral à Toulouse, donc j'imagine que du coup, vous n'êtes pas les seuls à faire ça en France, mais c'est un rapport?
Alors, en effet, on n'est pas du tout les seuls à faire ça en France. On a un certain nombre d'associations qui proposons des services de fourniture d'accès à Internet. Et on est un certain nombre à être rassemblés dans une fédération qui s'appelle la FFDN et qui a pour but de rassembler tous ces fournisseurs d'accès à Internet associatif pour nous donner plus de poids au moment, par exemple, où il y a des négociations sur la régulation des télécoms. Quand il faut négocier face à un Orange ou à un Bouygues, c'est bien de ne pas être tout seul avec tes 10 bénévoles de ton association. Donc on a cette fédération auquel il y a, quand j'ai regardé, on est une trentaine, je crois, à en faire partie. Voilà.
Ok. Bon, du coup, le thème de l'émission, c'est la neutralité du net. C'est un mot qui est pas mal revenu dans l'actualité ces derniers mois, voire ces dernières années, en particulier parce qu'elle est remise en cause dans certains pays. Donc, on a eu une petite introduction avec l'extrait de DataGun. Mais toi, comment est-ce que tu définirais, en gros, la neutralité du net?
Alors, comme ils l'ont dit, le principe de base de la neutralité du net, c'est de considérer que tous les paquets sont égaux. C'est-à-dire qu'on ne va pas favoriser un paquet plutôt qu'un autre en fonction de sa source ou de sa destination. Pour donner une métaphore qui est souvent utilisée, qui est une métaphore postale, c'est par exemple la poste, quand vous envoyez une lettre, la lettre ne va pas arriver plus vite selon que vous soyez le gouvernement français ou monsieur ou madame tout le monde dans son petit village. La lettre va aller à la même vitesse et le facteur ne va pas regarder ce qu'il y a dedans pour décider s'il faut que la lettre aille plus vite ou moins vite.
Ok, et le fait qu'elle soit remise en cause, pour toi, c'est quoi les conséquences les plus directes, les plus graves qu'il pourrait avoir?
Alors ça a plusieurs effets, le fait de remettre en cause cette neutralité. Ça a des effets économiques. Par exemple, un petit acteur qui voudrait s'insérer sur un marché où on peut payer pour faire passer plus vite ses paquets, le petit acteur qui s'insère, il ne va pas avoir le budget pour payer le gros opérateur. Donc du coup, automatiquement, son service va être plus lent que le service d'un concurrent. Et il y a un autre aspect qui, là, est plus social et politique, c'est qu'aujourd'hui, l'accès à Internet, c'est essentiel pour avoir une vision globale du monde. Et si on donne un accès biaisé à ce monde, forcément, on va influencer la vision politique et la manière de penser des gens.
Ouais, donc ça, on en reparlera, mais évidemment, Internet a un enjeu politique assez énorme. C'est ce qu'on défend depuis le début dans cette émission. Et vous, Rhizome, vous êtes du coup un fournisseur d'accès à Internet, donc ça veut dire que vous avez un rôle à jouer dans cette neutralité du net. Bon, j'imagine que vous êtes pour la neutralité du net, sinon je te demanderai de partir de ce studio. Mais comment est-ce que vous la garantissez? Et est-ce que vous êtes vous-même dépendant d'autres fournisseurs d'accès à Internet pour garantir cette neutralité?
Alors, à l'échelle de Rhizome, la neutralité du net, elle est garantie par le fait que tout simplement, on ne regarde pas ce qui se passe. Nous, on fournit un tuyau. Et on ne regarde pas quels sont les paquets qui transitent, on ne regarde pas les destinataires, on ne vérifie pas que vous fassiez du FTP, du peer-to-peer avec votre voisin. Ou voilà. On ne va pas regarder ça. Donc, à notre échelle, on va garantir la neutralité et vous pouvez venir parler avec nous. On est une association, vous pouvez adhérer à l'association, venir faire de la technique chez nous. C'est un peu comme Picassoft, on est très ouvert là-dessus.
Yes.
Et voilà. On est dépendant, entre guillemets, d'autres acteurs, parce que pour se connecter au reste d'Internet, on passe par un transitaire. Mmh. A priori, il est censé être neutre également et pas regarder ce qu'on fait. Et il est probablement, enfin c'est sûr qu'il est plus neutre qu'un gros FAI style Bouygues ou Orange ou SFR, enfin voilà. Et voilà.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Hugo, tu restes avec nous pour la suite de l'émission. Bon alors là on a parlé de quelques concepts, adresse IP, les paquets, les transitaires, ce genre de choses. On va revenir dessus dans tout le reste de l'émission. Il serait peut-être utile pour commencer de rappeler qu'était Internet à sa création, sur quoi est-ce que c'était fondé, quelle était la philosophie derrière ça. Je crois que tu as quelques citations Rémi à nous partager.
Tout à fait, alors la première citation est une citation de Philippe Aigrin, que vous pouvez sûrement retrouver dans l'émission qu'on avait fait sur la décentralisation du web. La citation est « Au commencement était Internet, un réseau de réseaux qui était bête pour que chacun d'entre nous puisse décider ce qu'il veut en faire. » Et la deuxième citation que j'ai, c'est le début de la définition de la quadrature du net. « La neutralité du net est un principe fondateur d'Internet qui garantit que les opérateurs télécoms ne discriminent pas les communications de leurs utilisateurs, mais demeurent de simples transmetteurs d'informations. » Ce principe permet à tous les utilisateurs, quelles que soient leurs ressources, d'accéder au réseau dans ce monde entier. Du coup, on a donné plusieurs définitions de la neutralité du net. Est-ce que quelqu'un, Romain par exemple, a envie de donner peut-être une autre explication un peu plus détaillée, en revenant un peu plus à l'origine?
Ouais, totalement. Du coup, on l'a vu pendant l'interview, les FAI, donc les fournisseurs d'accès à Internet, sont un peu comme les facteurs d'Internet. Et dans le vocabulaire du réseau, on va appeler la lettre un paquet. Du coup, dans les années 80, les routeurs qui faisaient office d'aiguillage pour ces paquets étaient totalement, quasiment dépourvus d'intelligence. Et ils se contentaient de regarder l'adresse à laquelle il fallait envoyer le paquet et basta, voilà. Ça implique, comme pour toutes les routes, que tout le monde respecte les mêmes règles, les mêmes limitations selon. On va pas limiter selon qui on est. Et il n'y a pas de voie réservée, sauf pour quelques exceptions, comme la police ou pour les bus. Et sans neutralité, on pourrait imaginer une voie spéciale pour les livraisons d'Amazon ou les Ferrari qui pourraient rouler plus vite, parce que bon, quand même, c'est des Ferrari, elles peuvent dépasser les vitesses. On retrouve aussi un principe de démocratie, c'est-à-dire que tous les nœuds sont égaux, donc ils ont le droit d'émettre et de recevoir de la même façon le même type de paquet et à la même vitesse. Il n'y a pas d'asymétrie en fait, entre les acteurs d'Internet. Et c'est ce qui a permis et garanti que tout le monde pouvait créer, s'exprimer et diffuser librement. La neutralité du net formalise donc les principes qui ont sous-tendu le développement d'Internet. Les opérateurs n'ont en théorie pas le droit d'ouvrir les paquets. Ils n'ont pas le droit de vérifier l'utilisation du réseau par les utilisateurs. Et ce sont de simples transmetteurs qui fournissent de simples tuyaux par lesquels transite l'information. Donc on l'a dit, ils n'ont pas le droit de regarder, ils n'ont pas le droit d'ouvrir les enveloppes. Il y a un secret de communication et ils ne peuvent pas discriminer. Donc ils n'ont pas le droit de choisir qui communique avec qui. Et ce n'est pas nouveau en France. Par exemple, le Comité national de la résistance acte la neutralité de la correspondance au sortir de la WWW2 qui interdit à la Poste de discriminer certaines communications.
Ok, super, merci Romain. Alors je précise la WW2, hein, c'est pour la Deuxième Guerre mondiale, pour ceux qui n'auraient pas compris. Du coup, j'ai une autre question. Quels seraient les risques, du coup, si on perd cette neutralité du net, hein? Donc on l'a dit, il y a plusieurs enjeux. Quentin, est-ce que tu veux répondre plus en détail?
Ouais, carrément. Bah, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je ne sais pas si on pourra traiter tout ça dans une seule émission. Hugo a déjà expliqué que ça pourrait bénéficier aux gros acteurs plutôt qu'à d'autres. Alors, ce qui est certain, c'est que la perte de la neutralité du net, forcément, c'est génial pour les gros fournisseurs d'accès à Internet. Mais si c'est génial pour eux, qui a quelque chose à perdre, hein? Parce qu'en général, c'est assez rare que ce soit gagnant-gagnant dans ce genre de rapport de pouvoir. Donc déjà, en premier lieu, les utilisateurs de gros services comme on peut penser à YouTube et Netflix qui sont très gourmands, Facebook, sont les premiers impactés. Donc les opérateurs en fait pourraient restreindre par défaut l'accès à ces services, donc sous prétexte qu'ils sont très gourmands en bande passante, on reviendra dessus en fin d'émission, et proposer donc des options supplémentaires, financières bien sûr, afin d'avoir un service illimité. Donc là on retrouve la métaphore de l'autoroute que prenait Romain, donc on aurait en gros une file VIP pour les Ferrari, les grosses berlines, et une file super lente avec plein d'embouteillages pour tous les autres. Et les autres, évidemment, ce serait vous qui n'aurez pas payé les options. Donc c'est pas de la science-fiction, hein. Par exemple, au Portugal, l'opérateur Meo a fait scandale en proposant des sortes de packages payants qui permettent d'avoir accès en illimité à certains services. Alors, on prend 5$ pour Google et YouTube, 5$ pour les sites d'actualité, 5$ pour certains jeux vidéo.
Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus pour dire qu'au Portugal, ça a fait scandale parce que c'est en Europe et qu'on n'est quand même pas habitué à ça. Aux États-Unis, c'est tout à fait normal et presque tous les opérateurs le font.
Alors effectivement, la neutralité du net, j'ai peur de dire des conneries, mais aux États-Unis a été plus ou moins abrogée en 2017-2018, en tout cas il en était question, mais là on est en train de revenir dessus parce que certaines autorités ont invalidé cette décision, mais en tout cas voilà, ça fait sacrément débat. Donc en tout cas, cette situation n'est pas sans stimuler les conflits d'intérêts des FAI eux-mêmes. Aujourd'hui, la plupart des FAI proposent leur propre service de vidéo à la demande, de musique en streaming, de gaming, et donc en l'absence de neutralité du net, les FAI vont pratiquer ce qu'on appelle le zero rating, c'est-à-dire que si vous utilisez leurs services, donc les services que eux développent et proposent, bah tout est illimité, mais si vous voulez utiliser les services des autres, eh bien vous payez. Donc il y a une relation de dépendance déloyale entre le FAI et son client, et de concurrence déloyale entre les FAI et les autres fournisseurs de services.
Avec cet exemple, Quentin, tu réponds un peu à la question précédente, enfin à la question que tu as toi-même posée, c'est-à-dire que en tant que telle, on ne peut pas dire que la neutralité du net a été abrogée ou que ce soit, mais en gros, elle est tailladée un petit peu de part et d'autre par un ensemble de mesures qui, à chaque fois, donc on pourrait considérer qu'elle est de fait abrogée parce qu'elle est plus absolue, mais du coup, toute la question, c'est de savoir ce qu'on en garde, quoi. Il y a une notion de curseur, en quelque sorte.
Ouais, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête? C'est vrai que c'est absolument pas binaire, et d'ailleurs il y a des points d'ombre sur lesquels on pourra discuter. Donc là, c'était les premiers impactés, on va dire, les utilisateurs de services eux-mêmes. Mais on peut aussi imaginer un autre problème qui serait moins coûteux en termes financiers pour l'utilisateur, c'est que les fournisseurs d'accès à Internet pourraient décider de systématiquement privilégier les gros services. Donc par exemple Netflix, en signant évidemment, c'est pas des vaches à lait, des accords commerciaux avec eux. Donc en fait, ce serait la fin, avec des guillemets quand même, mais en tout cas un problème pour les contenus indépendants, pour la liberté d'expression, pour l'égalité des nœuds dont on parlait au début de l'émission. En quelque sorte, la fin d'Internet telle que ça avait été créé. Donc on pourrait se dire que Internet deviendrait une sorte de télévision 2.0 où les plus puissants décident de ce qui est proposé au reste du monde et où les contenus indépendants sont beaucoup plus lents.
Et ça serait un problème direct pour, par exemple, des associations comme Picassoft qui hébergent leurs propres services et qui seraient, de fait, extrêmement lents chez tous les gens qui passeraient par des gros opérateurs.
Mais ça, c'est parce que les logiciels libres, c'est pas terrible, Hugo, c'est bien connu. Il faut faire confiance aux gens sérieux, enfin. Steph, tu voulais dire un truc ?
Oui, je voulais dire que Hugo avait demandé la parole.
Yes. Et donc pour finir, eh bien, il y a un risque politique, c'est-à-dire que Hugo le disait aussi au début de l'émission, si on a accès plus facilement et plus vite, par exemple, à un certain groupe de presse, eh bah, la plupart des gens auront naturellement tendance à s'informer auprès de celui-ci, et donc de pas potentiellement avoir accès à toute l'information. Donc la neutralité du net, c'est une sorte de rempart, un des remparts à la manipulation de l'information, et déjà que Facebook, Google ou d'autres, qui sont des sources d'informations très utilisées aujourd'hui, sont régulièrement accusées d'enfermer les utilisateurs dans un certain type d'informations, donc les fameuses bulles de filtre, soit à des fins financières, soit à des fins politiques. Bah, imaginez le résultat si le réseau lui-même favorisait certains contenus.
Et puis je vais répéter ce qu'on a dit, mais vraiment pour réinsister, parce que on entend parfois quelque chose comme oui, mais après tout Netflix a bien besoin de plus de bandes passantes, puis c'est normal que, etc. Mais comme vous l'avez dit, faut pas oublier que la bande qu'on donne d'un côté, on va forcément l'enlever de l'autre. Ouais. Et donc c'est vraiment ça qui est important, c'est que si on favorise certains acteurs, on va en défavoriser d'autres. Donc du coup, on va vraiment créer une dissymétrie de fait ce que tu viens de dire.
Bah oui, parce que la bande passante n'est pas illimitée, donc en quelque sorte, il faut bien se partager le gâteau. Donc le système gagnant-gagnant, il n'existe pas vraiment là-dedans. Alors une autre chose aussi, c'est qu'en dehors des choix légaux et des choix politiques qui sont faits concernant la neutralité du net, eh bien, les choix techniques eux-mêmes ne sont pas neutres. Alors, je sais que c'est une thèse qui est chère à certains d'entre nous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut nous parler un petit peu des choix techniques qui, jusqu'ici, ont pu désavantager la neutralité du net ?
Par exemple, aujourd'hui en France, la majeure partie des connexions Internet passe par des connexions ADSL. Et ADSL, c'est dans le nom. ADSL, ça signifie Asymmetric Digital Subscriber Line. Et donc, par conception, les lignes ADSL sont asymétriques. Ça veut dire que quand vous allez télécharger un contenu, ça va aller plus vite que quand vous allez envoyer un contenu vers l'extérieur. Et ça, ça a pour effet, par exemple, que si vous voulez vous auto-héberger, avoir votre site web chez vous, votre blog chez vous, eh ben, ça va être relativement compliqué parce que les gens, quand ils vont accéder à votre site web, la vitesse de chargement de votre site sera de fait lente. Techniquement, ça sera comme ça. Et la fibre change ça, la fibre optique, l'arrivée de la fibre optique permet des débits symétriques. Mais autant techniquement c'est possible, autant les opérateurs ne le mettent pas nécessairement à la disposition de leurs clients, parce que les gens sont habitués à avoir des débits asymétriques, parce que la DSL existe depuis 20 ans et on a toujours fait comme ça, entre guillemets. Et les opérateurs veulent pouvoir faire payer à leurs clients professionnels, par exemple, un accès symétrique au réseau.
Et moi, juste, je me pose une question, Hugo, parce que là, concrètement, la DSL, on dirait vraiment que c'est un vrai obstacle à la neutralité du net et que techniquement, bah, du coup, tous les paquets sont... Alors, c'est pas que tous les paquets sont pas traités de la même manière, c'est juste que les débits, quand tu envoies, sont inférieurs. Comment ça se fait que ça a été accepté à l'époque ? Comment ça a été vu ? Enfin, est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus ?
En fait, la DSL, au moment où ça a été déployé, ça utilise les mêmes lignes que pour le téléphone. Du coup, en termes de déploiement, c'est relativement facile pour les opérateurs historiques. Orange, qui avant était France Télécom, il avait déjà le réseau, il avait la technologie qui permet de faire passer du réseau sur les lignes téléphoniques. Donc ça s'est fait comme ça, et ça a été relativement facile de câbler une bonne partie de la population, enfin de raccorder une bonne partie de la population comme ça. Il y a des zones qui sont trop loin par rapport aux nœuds centraux du réseau téléphonique, okay. Et qui ne vont pas avoir un bon accès Internet à DSL. Et c'est un autre problème de la DSL, c'est que dans les coins perdus, dans les campagnes, ouais, par exemple, la DSL va être mauvaise et les gens vont être obligés... Souvent, ils sont délaissés par les gros opérateurs parce que ce n'est pas assez rentable d'investir dans du réseau dans ces régions. Et ils vont être obligés de passer par d'autres fournisseurs d'accès à Internet. Et c'est là où les fournisseurs d'accès à Internet associatifs peuvent être intéressants, parce que ça va être un groupe de personnes qui vont se rassembler pour faire du réseau, pour avoir Internet dans un endroit où il n'y en avait pas avant.
On enchaîne avec d'autres exemples de ce type, Quentin, c'est ça ? Tu voulais d'autres exemples techniques. Ce qu'on a vu, hein, c'est que du coup, dans la DSL, là, il y a vraiment une construction à l'origine qui crée la dissymétrie. Et bon, pour le coup, je ne suis pas du tout un expert de ça, mais je pense qu'il y avait peut-être aussi un aspect culturel. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on était habitué à la télévision où il y a des gens autorisés qui envoient des contenus à des consommateurs. Et en quelque sorte, je pense que c'est aussi pour ça que ça choquait pas tant que ça, c'est qu'en quelque sorte, ça reproduit ça. Mais par contre, là, on est quand même à l'antithèse de pourquoi Internet a été créé, c'est-à-dire à l'origine pour justement mettre les gens sur un pied d'égalité en termes d'émission et de réception. Alors c'est vrai que la fibre, c'est pas forcément la solution parfaite, parce qu'elle sera pas forcément complètement symétrique. Néanmoins, elle redonne quand même le pouvoir d'émettre pour de vrai. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, à partir du moment où on a la fibre, même une fibre dissymétrique, elle permet quand même d'émettre de façon confortable depuis chez soi. On aborde d'autres sujets. On parle de DNS, par exemple. Est-ce que vous voulez que je parle de DNS ou est-ce que quelqu'un se lance ? Rémi se lance.
Allez, je parle de DNS. Si tu actives mon micro, merci Stéphane. Du coup, les DNS, il me semble qu'on a déjà parlé dans l'émission, c'est des sortes d'annuaires. Donc en fait, chaque machine sur Internet possède un numéro qu'on appelle une adresse IP. Et bah, vous, quand vous allez sur un site web, vous tapez pas l'adresse IP parce que ce serait vraiment pas pratique. Vous tapez ce qu'on appelle un nom de domaine, donc picassoft.net, des choses comme ça. Et donc le DNS, c'est un gros annuaire qui dit bah, picassoft.net, ça va être telle adresse, graphite.fr, ça va être telle adresse. Et ces DNS-là, du coup, c'est les ordinateurs qui sont hébergés à différents endroits, et notamment chez les fournisseurs d'accès à Internet. Par exemple, quand vous êtes chez Orange ou chez Bouygues, quand vous tapez une adresse, c'est Orange ou Bouygues qui va vous dire « Ah bah c'est telle adresse ». Or, le problème, c'est que bah, ils peuvent mentir ces DNS. Notamment, ça se fait beaucoup au niveau de la censure. Lorsque une décision de justice ou de la police décide de censurer un site web, en fait, il dit juste à certains opérateurs de dire bah, « Cette adresse-là, maintenant, tu dis qu'elle n'existe plus ». Donc, dans le cas de la censure, la censure légitime, ça peut être cohérent. Il y a des censures que je ne considère pas forcément légitimes qui bloquent l'accès au savoir, par exemple. Et dans ce cas-là, bah, l'avantage d'utiliser un autre DNS que le DNS de votre fournisseur d'accès à Internet, c'est qu'il n'est pas obligé de mentir. Et il peut vous donner la vraie adresse. Par exemple, chez Rhizome, le DNS qui est utilisé est celui de la FFDN. On en parlera tout à l'heure.
De FDN, c'est une association de la FFDN. C'est FDN qui est une association de la FFDN qui fournit des services DNS.
Merci pour la correction, Hugo. Et du coup, eux n'ont jamais reçu la lettre du gouvernement leur demandant de bloquer certains sites. Donc, on a accès à pas mal de sites et ils décident de ne pas mentir.
Alors, pour être tout à fait franc, on utilise le DNS. Si à un moment, enfin, on utilise les DNS de la FDN. Si à un moment, on recevait une lettre du gouvernement qui nous disait de bloquer certains sites, on serait obligé, malgré le fait qu'on utilise le DNS de la FDN, d'obéir, parce que c'est la loi. Et à ce moment-là, il faudrait qu'on trouve un moyen, soit par le DNS, soit par un autre moyen technique, de bloquer. Et ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça.
Mais bon, on peut se dire que c'est normal.
Oui.
Mais du coup, voilà, on peut voir que même au niveau technique, quand on tape une adresse, bah, on n'est pas forcément sûr à 100% d'arriver là où on voulait aller à la base. Donc ça, effectivement, ça peut poser un problème aussi au niveau neutralité du net, parce que bah, du coup, c'est les fournisseurs d'accès qui décident où on peut aller et où on ne peut pas aller.
Il peut y avoir aussi un problème de collecte de données, c'est-à-dire qu'à partir de le DNS, c'est qui communique avec qui. Donc bien sûr, encore une fois, il est pas censé conserver et utiliser ces informations, mais techniquement, il peut le faire. Et donc, rien ne lui empêche techniquement de le faire. Donc on peut se poser la question, si jamais on a un navigateur Google, un moteur de recherche Google, et qu'on utilise le DNS Google qui est préprogrammé dans, préconfiguré dans Chrome par exemple, eh bien, on voit encore une fois qu'on va mettre tous les pouvoirs entre les mains d'une même organisation. Et donc, pour varier un peu les plaisirs, on rappelle, hein, on peut utiliser un navigateur Firefox, on peut utiliser un moteur de recherche, par exemple, comme Quant. Et donc, Hugo, tu nous l'avais proposé, on peut changer son DNS, c'est possible ça ?
C'est possible, c'est relativement simple. C'est un paramètre à changer. Ça change, la manière de le changer change en fonction du système d'exploitation, bien évidemment. Mais c'est possible et il y a des tutoriels sur Internet qui expliquent comment le faire assez facilement.
Ok, on continue avec peut-être un troisième point. Est-ce qu'on veut parler un petit peu d'IPv6 et d'IPv4 ? Sans être trop technique, Quentin, je te vois venir.
Non, évidemment, on peut le faire de manière assez simple. Disons que, bon, effectivement, là, on a vu déjà deux freins, à savoir les asymétries des débits avec la DSL et puis le fait que notre fournisseur d'accès à Internet puisse nous mentir sur les sites qu'on visite. Et un des autres problèmes, eh bien, effectivement, c'est ce problème de pénurie d'adresses IP. Donc en fait, pour faire vraiment simple, les adresses IPv4, il y en a un nombre limité. À la base, on pensait pas qu'Internet exploserait à ce point-là et qu'il y aurait autant de machines. Mais aujourd'hui, eh bien, évidemment, tout comme deux maisons ne peuvent pas avoir la même adresse, sinon comment fait-on pour savoir où acheminer le courrier ? Eh bien, deux machines ne peuvent pas avoir la même adresse et il y a de moins en moins d'IP disponibles. Donc, pourquoi IPv4 ? IPv4, c'est le système dont je viens de parler. IPv6, c'est un nouveau système d'adresses qui permet d'avoir beaucoup plus d'adresses, je crois, peut-être que d'atomes dans l'univers. Enfin, donc, je pense qu'on en aura assez longtemps. Ouais, Rémi ?
Nouveau, ça existe quand même depuis 1998.
Oui, alors effectivement, pourquoi nouveau ? Parce que, il y a une inertie absolument énorme des acteurs de l'Internet, parce qu'Internet, évidemment, ça reste pas une seule grosse organisation qui décide. Et donc, bon, en gros, le jour où Enfin, il faudrait que tous les acteurs de l'Internet se décident à changer leurs équipements et à changer leur configuration pour passer dans ce nouveau système. En tout cas, tout ça pour dire que IPv6, à mon sens, c'est pas prêt d'arriver, mais ça réglerait un problème, c'est qu'aujourd'hui, si on veut s'auto-héberger, eh bien non seulement, alors si on a la fibre, c'est mieux, si on a la DSN, c'est compliqué, mais il nous faut encore récupérer une adresse, et comme il y a très peu d'adresses IPv4 qui restent, eh bien c'est difficile d'en avoir une chez soi, où ça peut être aussi très coûteux. Et donc ça enlève encore la possibilité d'avoir cette symétrie. Vous voulez réagir, les amis, je crois ?
Oui. Oui, aujourd'hui, les opérateurs, les gros opérateurs historiques ont un certain nombre d'adresses IPv4, donc ils peuvent encore en distribuer. La plupart des maisons, enfin des lignes fixes, ont une adresse IP publique qui est à eux. Mais de plus en plus, et notamment dans le mobile, les opérateurs, en gros, mutualisent les adresses IP. Et donc, on a plusieurs clients qui ont une seule adresse IP publique, c'est-à-dire que quand ils visitent un site web, le serveur web, il va avoir une seule adresse IP pour tous les clients. Et ça va avoir pour effet d'empêcher complètement de s'auto-héberger.
Ouais, carrément. Donc voilà, là, je vois pas trop d'autres problèmes techniques, mais en tout cas, vous voyez que les choix techniques qui ont été faits, eh bien, rendent difficile la neutralité du net, juste là, vraiment, d'un point de vue technique. Et en tout cas, nous, on n'a pas vraiment, je pense, en tant que particulier, de poids là-dessus. C'est-à-dire que l'adoption de la fibre, par exemple, dans les zones... un peu les zones blanches ou ce genre de choses, ou encore... alors, le fait d'utiliser un autre DNS, oui, tout à fait, c'est juste qu'il faut informer, mais par défaut, encore une fois, bah, on ne peut pas. Et puis, bah, IPv4, IPv6, là, pour le coup, on ne peut vraiment pas faire grand-chose.
Alors, juste sur la fibre, effectivement, en tant que particulier, on ne peut pas faire grand-chose, mais il me semble que la FFDN fait beaucoup de travail là-dessus pour essayer d'apporter la fibre dans les zones les plus défavorisées. Donc on peut essayer de rejoindre des collectifs de la FFDN qui font ça. Hugo, je ne sais pas si tu en sais plus.
Alors, je sais qu'il y a des gros travails, notamment pour avoir accès aux réseaux d'initiatives publiques, c'est-à-dire les réseaux fibrés qui sont créés par les communes ou par les collectivités locales. Il y a un gros travail au niveau de la FFDN pour essayer de ne pas laisser l'exploitation de ces réseaux aux seuls gros opérateurs, mais de permettre à des opérateurs associatifs de travailler dessus.
Bon, donc du coup, là, on a dressé, comme d'habitude, un tableau un petit peu déprimant de l'état de la neutralité du net. Et puis, on a expliqué qu'en plus, on était niqué par la technique, comme d'habitude. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'individus, pour défendre, pour essayer de préserver, d'encourager la neutralité du net ? Allez, qui se lance ? Qui nous donne de l'espoir ?
Déjà, une première chose qui peut être faite, c'est de privilégier des FAI associatifs ou d'utiliser des VPN de la FDN, et si on n'a pas de FAI proche, ou alors que c'est trop compliqué. On peut aussi favoriser la décentralisation d'Internet, par exemple en utilisant des services comme ceux de Picasoft ou d'autres hébergeurs associatifs.
Je sens que tu vas nous parler de chatons, là.
Exactement. Donc, on peut utiliser les services des AMAP du numérique et donc des chatons. On l'a vu, le problème de la neutralité du net, c'est très lié à celui de la centralisation des services et des opérateurs. Et on peut aussi espérer la fin de la DSL avec l'arrivée de la fibre. Donc vive la fibre. Et on peut soutenir des associations comme la Quadrature, la FFDN ou d'autres associations du même genre.
Et on peut même préciser, que quand même en Europe, on est assez chanceux parce que la neutralité du net... elle a peu de chances d'être légalement supprimée, en tout cas. Contrairement aux États-Unis, par exemple.
Bon, bah, je l'avais promis, je pose ma question de fin d'émission. Alors, franchement, c'est une vraie question qui m'a un peu taraudé pendant la préparation de cette émission. Alors, il y a eu, pour donner un exemple, un conflit, je crois, en 2013, ou un truc du genre entre Free et Google. En gros, l'idée, c'est que il y avait énormément d'abonnés Free qui utilisaient des services Google comme YouTube, etc. Du coup, bah, c'est demandé à Free de fournir une bande passante absolument gigantesque. Et donc, ils ont commencé à limiter les débits sur, par exemple, YouTube. Google a hurlé, tout le monde a hurlé, ça a fait un énorme scandale. Et donc, en tant que tel, hein, c'est une atteinte à la neutralité du net. Mais donc, la réalité, c'est que les géants du numérique, ils imposent des énormes coûts aux fournisseurs d'accès à Internet, parce que pour pouvoir acheminer l'énorme quantité de données vers les géants du numérique, vers YouTube, sans les discriminer par rapport aux plus petits services qui, eux, demandent peu de bande passante, eh ben, il faut énormément d'infrastructures, il faut énormément investir, et ces coûts-là sont répercutés sur les FAI et ne sont pas du tout pris en charge par les géants du numérique. Donc, évidemment, moi, je ne vais pas plaindre Orange parce qu'il doit dépenser de l'argent pour que les gens puissent aller sur YouTube, hein, entendez-moi bien, mais par contre... Pour les FAI associatifs, déjà, est-ce que c'est un problème ? Alors, on pourrait se dire, oui, mais à ce moment-là, c'est bien, on décentralise tout le web, on n'a que des petits services interopérables, fédérés. Je vous dis, bien sûr, je signe et je vous serre la main. Mais là, en l'état, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et tiens, Hugo, est-ce que c'est un frein pour un FAI comme Rhizome, par exemple ?
Alors, à l'échelle de Rhizome, on n'a pas vraiment ce souci parce que, avec notre nombre d'abonnés, même s'ils se mettaient tous à aller sur YouTube en même temps. Avec la manière dont on distribue Internet, nous, chez Rhizome, on utilise du Wi-Fi longue portée. Donc on a des débits qui sont, en général, au maximum à 20 Mbps par seconde, mais symétriques. C'est-à-dire qu'on a comme de la DSL, mais en descendant et en montant. Avec ces débits-là, et avec le nombre d'abonnés qu'on a, même s'ils se mettaient tous à faire du YouTube en même temps, ils ne pourraient pas saturer notre lien. Donc ce n'est pas un souci à notre échelle. Je pense que c'est un vrai problème, la congestion du réseau liée aux très gros acteurs. Mais la fin de la neutralité du net, ce n'est pas une bonne réponse à ce gros problème. C'est-à-dire que, comme l'a rappelé Stéphane un peu plus tôt, si on fait payer des gens pour qu'ils aient un certain accès, pour leur garantir une certaine qualité de service, à côté, on va forcément défavoriser d'autres services. Donc... Il y a une approche qui est utilisée par exemple par Netflix pour limiter les coûts au niveau des opérateurs et faciliter les débits, c'est d'héberger directement chez les opérateurs des serveurs de cache qui permettent de ne pas avoir à causer avec les serveurs de Netflix aux États-Unis ou quelque part en Europe pour récupérer le contenu. La première fois où une personne accède au contenu, il est chargé sur le serveur de cache de l'opérateur et là ça coûte parce qu'on va causer à un autre opérateur, on va aller communiquer avec un autre opérateur pour récupérer des données. Et après, ça sera sur le serveur de cache dans le réseau de l'opérateur. Et là, pour l'opérateur, le coût, il est relativement faible parce que l'investissement est déjà fait pour l'infrastructure. Et transmettre des données à l'échelle de l'opérateur, c'est pas très cher.
Moi, j'ai une petite question par rapport à ça quand même. Là, on a vu du coup Netflix, par exemple, ils ont trouvé une solution qui marche bien pour Netflix. Et du coup, qui marche plutôt bien parce qu'aujourd'hui, il n'y a que Netflix qui fait ça. Si on est dans le monde qu'on promet, le monde décentralisé et fédéré, bah du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? Est-ce que ça serait pas un problème, du coup, si tout le monde allait regarder des vidéos sur des services différents ?
En fait, justement, le problème de Netflix, c'est que c'est un service centralisé. Et donc, quand on veut accéder au contenu Netflix, il faut aller causer au serveur de Netflix. Ce qu'ils font, Netflix, avec leur serveur de cache chez les opérateurs, c'est qu'ils décentralisent leur infrastructure. Mais si on accède à des services décentralisés, on a de fait... pas de point de congestion parce qu'on accède à des services qui sont décentralisés, qui ne sont pas tous au même endroit. Et donc on n'a pas ce même problème qu'à Netflix de devoir acheminer une très grande quantité d'un seul point vers le réseau de l'opérateur.
Mais c'est pour ça qu'on a invité Hugo aujourd'hui en fait, c'est parce qu'en fait il y a convergence et ça va ensemble tout ça.
Ça va complètement ensemble.
Bon, si personne n'a rien à ajouter, on passe au quiz.
Allez.
Du coup, je vais vous énoncer 4 risques et parmi les suivants, il va falloir dire lequel n'est pas concerné par l'affaiblissement ou la disparition de la neutralité du net. Donc le premier risque, c'est les fournisseurs d'accès pourront favoriser les utilisateurs en fonction du prix de leur abonnement par exemple et ainsi décider de qui peut ou non facilement publier sur Internet. Le deuxième, les fournisseurs d'accès pourront choisir qui les avantage en favorisant le débit de certains sites, par exemple des multinationales au hasard comme Facebook, qui eux pourront payer, au détriment d'autres, par exemple des associations comme Wikipédia. Les fournisseurs d'accès pourront ralentir ou rendre inaccessibles certains sites et ainsi pratiquer une forme de censure de l'accès à l'information. Et enfin, les fournisseurs pourront développer des synergies dans le cloud virtualisé et la blockchain grâce au deep learning et faire émerger l'Internet 3.0, innovant en 5G, piloté par des IA dématérialisées sur des ordinateurs quantiques.
Ça, c'est marrant, j'ai comme l'impression qu'il y a des mots-clés qu'on retrouve dans le livre Traces de Stéphane dans cette dernière réponse. Bon, on va pouvoir passer à la musique. Alors aujourd'hui, on va écouter Belle du groupe Total Rectal en live à Mareuil-Lamotte. Stéphane, j'ai comme l'impression que tu as des choses à nous dire sur ce groupe.
Bah écoute, c'est un groupe d'abord qu'on peut féliciter parce qu'il vient juste de décider de libérer ses albums et donc de les passer en musique art libre. On a donc l'exclusivité pour les diffuser pour la première fois.
Quel privilège, merci.
Quel privilège. Et donc oui, c'est un groupe dont j'ai déjà entendu parler puisqu'il s'est constitué dans les années 90 à l'Université de Technologie de Compiègne. Il est composé de Alain, Charlie, Nono, Flo et Gab. Et pour la petite histoire, la plupart d'entre eux étaient à l'origine de la première comédie musicale de l'histoire de l'UTC, le Rocky Horror Picture Show. Et comme quand même ma mémoire a des limites, je me souviens plus exactement de la date, mais ça doit être autour de 95. On en voit.
Pour elle, quand elle danse et qu'elle met son corps à jour de terre, un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler, alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds.
Diablo qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi
de retour sur Graphite 94.9, mes respects éternels à Total Rectal pour cette magnifique reprise de Belle en live à Mareuil-Lamotte. Eh bien, il est temps de répondre au quiz. Romain, est-ce que tu nous annonces la bonne réponse ?
Donc la bonne réponse était bien évidemment la dernière. Les fournisseurs ne pourront pas développer des synergies dans le cloud virtualisé et la blockchain grâce au deep learning pour faire émerger, etc., etc.
Étonnant, vraiment. On ne s'y attendait pas bien. Alors pour terminer l'émission, je vous propose quelques liens. La Quadrature.net, donc association de défense des libertés sur internet, qui est très active aussi au niveau de la neutralité du net. Vous trouverez plein d'informations sur leur site. Le site de la FFDN, donc ffdn.org. Et pour tous les compiénois et toutes les compiénoises qui nous écoutent, ou même les autres, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Rhizome, donc Rhizome, rhizome-fai.net. Ce sont des copains, ils sont absolument exceptionnels.
T'as oublié un E.
J'ai oublié un E, donc Rhizome, R-H-I-Z-O-M-E, pardon, -fai.net. Eh bien, merci beaucoup d'avoir écouté l'émission. Merci Hugo d'être venu discuter de neutralité du net avec nous.
Merci pour l'invitation.
Merci.
Et puis, on vous souhaite une excellente matinée. À la semaine prochaine. Salut.
Bye bye.
Salut.
Salut.